Fidélité, chêne, haute fidélité, c'est le bois évidemment. Et puis après, petit tour vers le parchemin et vers les vitraux. Mais pour le moment, il est 10h pile sur France Culture et nous retrouvons Géraldine Mühlmann avec Philosophie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Xavier Mauduit, bonjour tout le monde.
Qui allez-vous juger aujourd'hui ?
Nous parlons de Socrate, il faut souvent y revenir. Nous nous sommes aperçus de cela dans cette émission. Ça donne toujours à réfléchir. Les historiens nous apportent beaucoup, mais nous sommes dans une série toute la semaine sur les grands procès d'écrivains et de penseurs. On parlera d'Oscar Wilde, de Jean Genet, vous verrez.
Et aujourd'hui, c'est ?
Socrate, donc.
Bon, bah d'accord. Cigu avec ou sans sucre ?
Ça devait être dégueulasse, cela dit. Bon, bonne
émission, Géraldine.
France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous commençons aujourd'hui une série sur les procès de penseurs et d'écrivains, sur ce qui se joue volontiers dans ces procès, ce matin, Socrate, ou la pensée qui inquiète la démocratie. On a tout fait dire au procès de Socrate. Les mobiles officiels, non-respect des dieux de la cité, introduction de nouvelles divinités, corruption de la jeunesse, autorisent certains à faire de Socrate une figure du blasphème en terre polythéiste. Mais il arrive aussi qu'on voit en lui un martyr, peu différent des figures chrétiennes du martyr, et l'image de Jésus n'est alors pas loin. Ce serait donc une certaine foi ? Et non pas une position irreligieuse que Socrate incarnerait, débat sans fin et souvent forcé, sans grand respect de la réalité historique de ce procès. On peut aussi évoquer la persécution de l'homosexualité, Socrate ayant enfreint les mœurs d'Athènes, qui à l'inverse des nôtres ne tolérait pas les rapports homosexuels au-delà de la période où un homme d'âge mûr éduque un très jeune homme. Et puis il y a l'énigme de cet homme qui s'est si mal défendu, leçon d'obéissance de aussi la lassité, tendance suicidaire, vraiment, on aura tout dit. Il reste la lecture politique, peut-être la plus fine, celle en tout cas qui essaie de comprendre cette affaire à partir de l'histoire d'Athènes. Socrate est assurément un philosophe qui a dérangé sa cité, mais plutôt que de divaguer sur cette idée séduisante, réfléchissons à ce que cela voulait dire en son temps, temps où l'idée démocratique était soumise à rude épreuve. Bonjour Paulin Ismar.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire grecque ancienne à l'université d'Aix-Marseille, auteur notamment chez Flammarion de l'événement Socrate. Et bonjour Arnaud Massé.
Pardon. Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie ancienne à l'université de Franche-Comté. Vous avez notamment écrit la présentation du livre de Platon, l'Apologie de Socrate, pour la nouvelle édition de Flammarion. Vous vous connaissez bien tous les deux, Paulin Ismar et Arnaud Massé, puisque vous venez de publier ensemble aux éditions Les Belles Lettres un livre intitulé La cité et le nombre, Clisthène d'Athènes, l'arithmétique et l'avènement de la démocratie.
Vous, citoyens qui avez été désignés par le sort avec l'assentiment de nos dieux, sachez que vous devez vous prononcer et rendre votre sentence à l'occasion de ce procès qui est intenté par Mélétos avec l'appui d'Anitos et de Lycon contre Socrate.
La parole est au premier accusateur. La parole est à Mélétos.
Socrate a la prétention de remplacer le culte de nos dieux traditionnels par le culte de nouveaux démons dont il refuse absolument de préciser l'apparence. Parce qu'il se montre toujours plus ambitieux à détruire qu'à construire. Et son crime, alors que nous venons à peine de retrouver la paix, nous fait craindre que se déchaîne contre notre patrie et contre Athènes la juste colère de nos dieux. Mon âme est affligée. Mais je sais qu'il est de mon devoir de requérir la peine de mort contre Socrate.
La parole est à Anitos.
Athéniens, vous tous me connaissez depuis longtemps et savez que le destin m'a déjà frappé sans pitié. Par la faute de Socrate, à cause de la détestable influence qu'il a eue sur mon malheureux fils.
J'ai l'espoir que vous allez ensemble prononcer la sentence qui s'impose à tous.
C'était un extrait du téléfilm Socrate de Roberto Rossellini qui date de 1970 avec Jean Silver dans le rôle de Socrate. Paulin Ismar, on est en 399 avant Jésus-Christ. Vous allez nous expliquer qui est ce Méletos qui produit l'accusation. Mais avant, pourriez-vous nous dire quelle est la situation politique? Ça fait au moins 5 ans que ça tangue beaucoup à Athènes. Pouvez-vous un peu nous planter ce décor historico-politique?
Au tout début du IVe siècle, en 399 avant notre ère, en fait, on est 5 ans après la fin de la guerre du Péloponnèse. C'est ça le grand événement marquant de la fin du Ve siècle. Donc cette guerre du Péloponnèse qui a opposé Athènes et ses alliés à Sparte et ses alliés, qui a bouleversé le monde grec dans la deuxième moitié du Ve siècle et qui s'est achevé par la défaite d'Athènes et, à la suite de la défaite athénienne, l'installation d'un régime oligarchique qui a donc renversé la démocratie, qui s'est installé à Athènes durant environ une année. Et puis, à la fin de l'année 403, les Athéniens rétablissent la démocratie. Alors, en fait, c'est véritablement en 401 que l'ensemble du territoire athénien repasse de façon sous le contrôle des démocrates. Mmh. Et donc, on est juste après ce grand bouleversement de la vie politique athénienne.
On peut en dire un peu plus. Lysandre était un chef de guerre spartiate. Oui. C'est lui qui, après une bataille, a imposé un nouveau régime à Athènes, qu'on a appelé le régime ou
le
la
régime des 30.
Des 30. Vous pourriez, ça se passe en 404 à peu près.
Voilà, c'est l'année 404-403, oui, où grâce aux Spartiates, avec l'appui des Spartiates, ceux qu'on appelle les oligarques, qui depuis un certain temps s'opposent au régime démocratique, qui pour la plupart d'entre eux appartiennent aux élites athéniennes, arrivent à imposer un nouveau régime qui restreint le corps civique athénien, puisque à la fin du Ve siècle, il y avait la démocratie athénienne reposait sur une communauté d'environ 30 000 citoyens.
Oui.
Les 30 réduisent le corps civique à 3 000 individus.
C'est considérable, ça change tout.
Ça change absolument
beaucoup
tout.
Beaucoup de gens ont des procès, même des faux procès, enfin, ils sont condamnés sans procès.
Voilà, alors qu'il y a une dérive du régime des 30, avec un pouvoir qui se concentre de plus en plus entre les mains de cette commission de 30 personnes, avec quelques individus qui en plus semblent exercer une forme d'autorité particulière à l'intérieur de cette commission, et une forme de dérive terroriste à l'intérieur même de ce régime oligarchique qui commence progressivement à s'en prendre aux oligarques modérés.
Et comment il va chuter, ce régime, donc à peu près quelques mois plus tard ou un an après, c'est ça, à peu près?
Il chute parce que une forme de résistance athénienne et de la part des démocrates se met en place, en particulier sous l'égide d'un certain Thrasybule qui réunit des hommes au nord de l'Attique, en Béotie, et puis qui va reconquérir le territoire athénien. D'où cette image, vous savez, très très belle, autour de laquelle avait réfléchi quelqu'un comme Jules Isaac quand il avait écrit en 1940 ce livre qui s'appelait Les Oligarques, qui portait sur cet épisode oligarchique athénien et qui tacitement, implicitement pensait l'épisode de 404-403 de la guerre civile à la lumière de ce qui se passait en France en 1940. Et donc, de ce point de vue-là, Thrasybule aurait été l'équivalent du général de Gaulle. Enfin, il y a quelque chose de l'expérience de la France libre, d'une certaine façon, qu'on peut projeter sur cette armée de Thrasybule qui va reconquérir la Athènes de l'extérieur. Mais l'homme fort de ce régime des 30 tyrans, parce que c'est là qu'on en vient quand même assez rapidement à Socrate et la façon dont ces événements pèsent sur ce qu'elle pensait de Socrate en 399, c'est Critias.
Alors, Critias, c'est quoi? C'est un ami à lui? C'est plus qu'on peut être un allié? D'abord, qui est Socrate? Il faut quand même qu'on plante le décor. Alors, je vous propose de demander à Arnaud Massé, qui, lui, connaît parfaitement le corpus platonicien. Platon nous a dépeint un Socrate un peu particulier, mais forcément, vous avez cherché ce qui correspond à une réalité historique, ce qui a été un peu construit. Donc, grosso modo, que sait-on? Socrate vient d'un milieu social plutôt aisé, son père était sculpteur, il semble avoir quelques terres, c'est ce qui fait qu'il enseigne des choses à beaucoup de gens à Athènes, mais plus ou moins gratuitement, et il est étonnamment, juste avant que les 30 arrivent au pouvoir, il fait partie de ce qu'on appelle la boulée, c'est-à-dire cet organe législatif. Enfin bon, c'est quand même le peuple qui vote les lois, mais qui prépare les lois. Donc Socrate est un Athénien un peu original.
Alors, c'est intéressant que vous mentionniez le fait qu'il était, qu'il a été bouleut et bon prytane dans l'année 405-406 au moment de l'affaire des Arginus. Ça a créé une contradiction avec le fait que dans l'Apologie, Socrate nous dit qu'il se refuse à participer à toutes les institutions démocratiques. Pourquoi ?
Il dit ça où ?
Ah bah vous l'avez en 31.
C'est Platon donc qui
oui,
le dit.
Oui, c'est Platon voilà, qui le dit. Ça fait partie de la défense de Socrate. Il dit ne vous fâchez pas si vous ne m'entendez pas parler comme on parle d'habitude, comme on vous parle d'habitude dans ces assemblées. Et pourquoi moi je me refuse à vous parler quand vous êtes tous réunis, mais je suis très actif pour vous parler un à un. Il y a cette critique là des institutions démocratiques sur laquelle on va peut-être revenir, mais pour le contexte. Socrate, oui, peut-être fils d'artisan, il est décrit par Platon comme un hoplite, quelqu'un qui s'est battu.
C'est un grade dans l'armée, hoplite ?
Non, c'est un fantassin avec l'armement lourd de.
Ça suppose appartenir quand même à la classe des propriétaires
voilà.
Dans la cité.
Ouais.
Donc ça représente quand même une certaine élite économique et sociale.
Et ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que Platon est le seul. Alors que Xénophon, qui est vraiment un soldat, ne le fait jamais, à décrire Socrate comme un soldat exemplaire. Et pour revenir à l'allusion que Paul Ismar a fait à 1940, c'est toujours dans des situations de défaite et de débandade que Socrate est représenté comme le dernier rempart de la cité. Les généraux à Délion, à Potidée, Alcibiade, tout le monde est bien heureux de se replier avec Socrate parce que c'est un homme qui se replie en ordre et que l'ennemi n'ose pas approcher.
Alors il y a un point, donc, avant que les 30 arrivent au pouvoir, avant ce moment oligarchique que vous venez de décrire, un moment dans la guerre du Péloponnèse, où en tout cas Platon nous dit que Socrate, alors qu'il était prytane, c'est-à-dire dans l'organe législatif, il y a eu un moment en quelque sorte traumatique, en tout cas c'est Platon qui le dit, pour la démocratie athénienne, qui est la bataille des Arginus. Alors c'est une bataille où il y a eu beaucoup de morts, 8 généraux... stratèges sont rentrés, vivants, mais comme ils n'ont pas rapporté les dépouilles des autres soldats, il y a eu un moment dramatique qui a produit une étrange chose, c'est vrai, pour un peuple qui, loin de célébrer ses généraux qui rentrent, va les condamner à mort. Parlons de ce qu'en dit Platon, Arnaud Massé.
Ce qu'en dit Platon, et on pourra s'interroger pour savoir s'il n'a pas enjolivé. Donc, selon Platon, alors ça fait partie, c'est un diptyque à l'intérieur de la défense de Socrate. Il renvoie dos à dos le régime démocratique et le régime oligarchique. Et contre la démocratie, il va dire que, eh bien, dans des moments d'émotion, elle est incapable de s'en tenir à ses propres principes. Et Socrate, donc, on l'a dit, il ne vient pas dans les institutions, mais il y est probablement venu parce qu'on manquait d'hommes. Hein, on a dû reconstituer une flotte, libérer des esclaves pour faire la bataille des Arginus. Il ne s'est pas donc, toujours, refusé à son devoir. Et venant là, il a été le seul des prytanes à tenir qu'on ne pouvait pas condamner collectivement les généraux, qui sont coupables donc de ne pas avoir ramené tous les corps. On ne laisse pas les corps derrière.
Et là, en quelques heures, parce qu'il devait y avoir un procès, je crois, plus élaboré, individu par individu, devant le tribunal de l'Élier, donc avec des jurés, et tout d'un coup, on passe à une ecclésia, une assemblée qui vote collectivement parce qu'on le lui demande, on lui pose la question à elle, la mort de ces 8 généraux.
Et il y a l'émotion, alors selon Platon, il y a le fait que les débats sont interrompus par une fête, les apatouri. Vous pouvez essayer de peut-être le comparer à Thanksgiving pour les Athéniens à l'époque. Les familles se rassemblent toutes. Et donc là, évidemment, les familles qui n'ont pas pu faire le deuil des morts à la bataille ont ranimé une émotion qui va se traduire dans la délibération collective. Platon.
Alors, est-ce que c'est vrai? Donc, il semblerait que Socrate, je vais au bout de ce que dit Platon, était un des rares, peut-être même le seul, dans l'Assemblée, puisqu'il était prytane, à être affolé d'une décision pareille, qui n'était peut-être pas illégale, mais qui était quand même une mise à mort de généraux qu'on aurait peut-être dû...
Illégale selon lui.
Illégale selon
lui. La démocratie.
Alors, l'historien que vous êtes, Paulin Ismar, va nous éclaircir sur ce point. Cette affaire de la bataille d'Arginus et de la mise à mort des généraux, c'était vraiment un traumatisme, un problème lourd pour les Athéniens. Ça se passe en quoi? Moins 406. C'est une histoire majeure?
C'est un épisode marquant, disons, de la fin de la guerre du Péloponnèse, quand la situation militaire pour les Athéniens est de plus en plus difficile, compromise. Il y a cette victoire un peu miraculeuse aux Arginuses. Et immédiatement, parce que la cité est traversée de conflits très forts, il y a cette scène alors sur laquelle les historiens, en particulier les historiens du droit, sont très partagés, parce qu'il n'est pas du tout certain que ce soit véritablement illégal, ce que font les Athéniens. D'un point de vue très technique, hein, pour les historiens, un des enjeux ici, c'est de savoir dans quelle mesure les magistrats sont collectivement responsables. C'est-à-dire,
et pas seulement individuellement.
C'est tout le problème dans les cités de la collégialité des magistratures.
Les magistrats, il faut appeler, c'est l'exécutif à Athènes.
Oui. Hein,
c'est pas le ce que nous
si
on
veut. Alors, on peut dire que c'est l'exécutif, même si en même temps, il n'y a pas cette séparation des pouvoirs telle que nous on la pense depuis au moins le XVIIIe siècle. Mais alors, en même temps, toute la question dès qu'on s'intéresse au procès lui-même, c'est quand même d'essayer de savoir sur quelle source, évidemment, on peut s'appuyer. Et évidemment, ce grand récit autour des Arginuses est le produit du travail apologétique
de Platon,
de l'écriture platonicienne, à partir de la deuxième moitié, dans la première moitié du IVe siècle, écriture qui elle-même s'inscrit dans, en fait, un débat qui traverse la littérature athénienne dans la première moitié du IVe siècle et qui a pour enjeu le procès de Socrate, ce qui s'est passé lors du procès, et il y a des auteurs qui défendaient la condamnation à mort du philosophe. On en connaît bien au moins un, qui s'appelle Polycrate, qui a écrit une accusation contre Socrate, dans laquelle Polycrate expliquait que Socrate était un adversaire du peuple, qu'il haïssait le peuple athénien, il était misodémos, qu'il était tyrannikos, qui défendait les tyrans à Athènes. On voit bien que ce qui était en jeu, c'était le souvenir de la tyrannie des Trente en 403. Et c'est à ces auteurs-là que Platon, en partie, dans son œuvre, répond dans le portrait.
En ne disant pas qu'il aime tellement la démocratie, en disant bel et bien que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'inquiétudes, qui en a eu au moment de l'affaire des Arginuses, et qui effectivement incarne une inquiétude à l'égard de la démocratie.
Alors, une inquiétude. En tout cas, c'est à peu près certain que pour les Athéniens, et ce sont les Athéniens ordinaires tirés au sort qui ont jugé Socrate en 399, Socrate était un adversaire radical de la démocratie, il n'y a aucun doute là-dessus. Et un élément de ce point de vue-là qui est une marque très importante pour nous, c'est un passage d'un orateur qui s'appelle Échine au milieu du IVe siècle avant notre ère, donc longtemps après l'événement.
Oui.
Quelqu'un qui n'a peut-être jamais lu Platon, sans doute qui n'a jamais lu Platon, qui traduit quelque chose peut-être d'un lieu commun qui était partagé par les Athéniens, et qui dit, vous avez condamné, il s'adresse aux Athéniens, il dit, vous avez condamné Socrate en 399, Socrate le sophiste, c'est comme ça qu'il qualifie Socrate, vous avez condamné Socrate le sophiste, parce que c'était le maître de Critias. Critias qui avait...
Critias, on y vient, j'ai un tout petit peu retardé pour qu'on comprenne bien le contexte, l'éclaircissement à propos de Critias. Donc lui, c'est vraiment un des chefs importants au moment de la dictature des Trente, qui renverse donc la démocratie, et semble-t-il, c'était quand même un ami de Socrate, ou un allié politique. Qu'est-ce que les historiens disent ?
C'est effectivement la figure, peut-être, disons, c'est le grand idéologue du régime des Trente. C'est, sur le plan politique, c'est peut-être pas le personnage le plus important.
C'est pas vraiment un chef.
Mais c'est... Oui. C'est un chef. Mais c'est aussi un idéologue. C'est quelqu'un qui, à travers ses textes, parce que Critias a écrit, défendait le principe du régime oligarchique. C'était un adversaire radical de la démocratie. Il est sûr que pour les Athéniens, il y avait un lien étroit entre Critias et Socrate, au sens où Socrate avait été un des maîtres de Critias, comme il aurait été un des maîtres d'Alcibiade.
Ça pose la question de savoir si Socrate a une responsabilité dans ce que ses disciples sont devenus.
Bien sûr.
Alors, on va en parler. Le problème est soulevé notamment par Xénophon. Xénophon, qui est une autre source importante, outre Platon, à propos du procès de Socrate. Est-ce qu'on a cherché des noises à Socrate parce que ses disciples sont devenus des antidémocrates, des oligarques, parce qu'ils aimaient le pouvoir ? Est-ce que c'est ça le fond de l'affaire ? Écoutez ce texte de Xénophon dans Les Mémorables.
Socrate, dit l'accusateur, a eu pour disciples Critias et Alcibiade, deux hommes qui ont causé les plus grands maux à l'État. Et en effet, de tous ceux qui ont gouverné pendant l'oligarchie, Critias a été le plus voleur, le plus violent, le plus sanguinaire. Et de tous ceux qui ont gouverné sous la démocratie, Alcibiade a été de son côté le plus débauché, le plus insolent et le plus violent. Pour moi, si ces deux hommes ont fait du mal à l'État, je ne les justifierai pas, mais je dirai ce qu'a été leur liaison avec Socrate. Ces deux hommes étaient de leur nature les plus ambitieux des Athéniens. Ils voulaient que tout se fît par eux et qu'on ne parlât que d'eux. Peut-on dire que c'est parce qu'ils désiraient mener la vie de Socrate et pratiquer sa tempérance qu'ils recherchèrent sa compagnie? N'est-ce pas plutôt qu'ils pensèrent qu'en le fréquentant, ils deviendraient des maîtres dans l'art de parler et de gouverner? Pour moi, je suis convaincu que si un dieu leur avait donné à choisir ou de vivre toute leur vie comme ils voyaient vivre Socrate, ou de mourir, ils auraient tous deux préféré la mort. Leur conduite l'a bien prouvé. Car dès qu'ils se crurent supérieurs à ceux qui suivaient aussi ces leçons, ils plantèrent là Socrate pour se lancer dans la politique, ce qui avait été justement le but de leur liaison avec lui.
Arnaud Massé, on entend bien dans ce texte de Xénophon que Socrate est perçu à son époque comme un ami de gens qui ont un rapport au pouvoir assez autoritaire. Est-ce que Platon dit la même chose ? Est-ce que vous pensez, vous, après avoir étudié tout cela, y compris avec des historiens, que c'est un élément majeur dans l'affaire du procès de Socrate ?
Platon est tout à fait d'accord, et même il en a remis, pour ainsi dire, une couche, puisque si vous lisez le Charmide, qui est écrit, bien sûr, après le procès, vous trouvez un très bel épisode. On est en début des années 30, Socrate a donc 40 ans, il revient de la guerre à Potidée, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller à la palestre voir les jeunes gens, qui sont à la fois, trouver ceux qui sont beaux et doués pour la philosophie, et là, il rencontre qui ? Critias, qui d'ailleurs est de la famille de Platon, hein, et qui l'accueille à bras ouverts, ils sont tous là, et qui lui dit, il y a un jeune incroyable, tu vas adorer, regarde, il est en train d'entrer, et tous les regards se dirigent vers lui, et c'est le beau Charmide, qui va donc, avec Critias, être l'un des deux, des 30, enfin, les plus sanguinaires.
Donc l'accusation de corruption de la jeunesse, qui est un des mobiles mis en avant au moment des accusations, des chefs d'accusation contre Socrate. Il y a les engagements de certains de ses disciples, problématiques au regard de la démocratie qui est en train de se rétablir avec Thrasybule. Et deuxièmement, il y a le fait qu'il aime vraiment les garçons, pas seulement dans la relation pédagogique, comme c'était toléré tout à fait en Grèce, au sens propre du terme, la pédérastie, le fait d'aimer un jeune homme qu'on éduque, ça c'était toléré. Ce qui ne l'était pas, c'était de rester amoureux et d'avoir des relations sexuelles et amoureuses avec des hommes adultes beaucoup plus tard. Donc, est-ce qu'on dirait qu'il y a ces deux problèmes mélangés dans l'accusation de corruption de la jeunesse ?
Sûr, pour ça, en tout cas, le Platon ne parle pas de ça dans l'Apologie. Et ensuite, si vous, sur ce terrain, si vous regardez le banquet et la nuit que confesse Alcibiade, où il a essayé d'aller se blottir sous la couverture de Socrate et où Socrate a refusé le contact charnel pour le diriger vers la vertu.
Bien sûr, c'est plutôt...
Alors à vous, Paulin Ismaël, l'historien, sur ces points. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ?
Non, mais alors moi, je pense que l'accusation de corruption de la jeunesse, c'est beaucoup plus large et plus profond, et ça renvoie aux spécificités de l'éducation socratique. Ce qui troublait, ce qui effrayait les Athéniens, c'était le lien charismatique, très puissant, très fort, que Socrate nouait avec ces jeunes hommes de l'élite athénienne. Et ça, tous les textes convergent quand même pour le dire. Alors, évidemment, surtout des textes de la tradition socratique.
Oui.
Mais pour expliquer que on se donne à Socrate, on devient follement amoureux de Socrate. Entrer dans le socratisme, c'est de l'ordre de la conversion presque amoureuse.
Mais et plus que les autres sophistes, parce que puisqu'on disait qu'il était justement
de
des
façon
sophistes.
Totalement différente.
Et
on peut d'abord s'appuyer là-dessus sur finalement la source la plus ancienne dont on dispose au sujet de Socrate, qui sont les Nuées d'Aristophane. Donc le texte d'une pièce qui a été jouée à Athènes en 423, donc 24 ans avant le procès. On sait que la même année, d'autres pièces avaient été jouées qui représentaient Socrate, et où C'est une charge extrêmement violente contre Socrate. Mmh. Mais l'enjeu dénué d'Aristophane, c'est bien de présenter Socrate comme un sophiste, mais qui a cette singularité parmi les sophistes d'exercer un pouvoir charismatique inouï sur un jeune homme qui détourne de l'autorité de ses parents. Et ce rapport, vous voyez, que Socrate construit avec des jeunes hommes contre les parents eux-mêmes, c'est d'ailleurs à l'arrière-plan de certains textes, mais de certains dialogues socratiques. Ouais. C'est la question en partie du Lysis de Platon. Donc là, il y a quelque chose qui est. Alors, bien sûr, Socrate est un sophiste du point de vue des Athéniens. Au sens où...
Il éduque la jeunesse sur des questions variées,
voilà,
notamment politiques.
Sans avoir, semble-t-il, d'espace réservé dans la cité, une école, bon, donc dans des espaces publics.
Oui.
Mais par rapport aux sophistes, il y a quelque chose de tout à fait singulier de la part de Socrate qu'on ne peut pas tellement remettre en doute, c'est le fait qu'il ne faisait pas payer son enseignement. C'est une des grandes singularités de l'enseignement de
Socrate.
Et
donc pas de contrôle des familles payantes, justement, sur lui.
Pas de contrôle des familles, voilà, il choisit lui-même ses élèves.
Mm-hmm.
Et il pense son savoir comme un don, et ce don oblige celui qui reçoit. C'est-à-dire que c'est pas une relation de type contractuel, comme le faisaient les sophistes, ce qui noue avec, mm-hmm, avec ses propres élèves, ses propres disciples. C'est autre chose, c'est un lien beaucoup plus fort. D'où ce terme, je veux dire, le terme Socratizein.
C'est un verbe qu'on trouve
chez Aristophane, dans les oiseaux, hein, donc bien avant le procès.
Et qu'est-ce que ça veut dire alors ?
C'est-à-dire jouer à être Socrate, être totalement avec Socrate, vouloir imiter Socrate. Donc là, il y a quelque chose qui troublait incroyablement.
Et ça donne un fondement historique au fait que Platon affirme cet homme n'avait rien à voir avec les autres sophistes. Sa façon d'éduquer, sa pratique de l'éducation, sa manière d'interroger et au fond de faire naître la philosophie, effectivement, ça n'avait rien à voir avec les autres profs de l'époque.
Et alors oui, d'abord le mot sophiste au 5e siècle, avant que Platon ne le prenne en un sens péjoratif, ça désigne juste les gens qui vivent de leur savoir.
Mm-hmm.
On pense que Thrasymaque, le sophiste, a voulu écrire qu'il était sophiste sur sa tombe. Donc il a vécu de son savoir.
Mm-hmm.
Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire faire comme Socrate, Socratizein? C'est ce que Platon raconte dans l'Apologie, où Socrate dit, si vous voulez que je vous explique pourquoi j'ai énervé des gens, c'est que, comme la Pythie avait dit qu'il y avait personne de plus sage que moi et que je n'y croyais pas, j'ai voulu interroger tous les gens qui semblaient bien évidemment avoir un savoir, et tous ces gens-là, je me suis mis à les interroger, et les enfants faisaient comme moi. Donc il semble avoir déclenché, dit-il, dans la cité, une sorte de rébellion généralisée où les jeunes gens vont questionner tous les gens qui prétendent avoir une autorité, pour se demander sur quel fondement elle repose véritablement.
Alors, vous soulevez, vous parlez de la Pythie, donc là, on arrive à un autre mobile, un autre chef d'accusation très grave, vous allez me dire, l'historien, si c'est si grave que ça. Il aurait, Socrate, manqué de respect, je crois qu'en grec on dit... Acébéia, c'est comme ça qu'on dit
Acébéia,
c'est-à-dire le fait d'avoir manqué de piété,
oui,
à l'égard des dieux traditionnels de la cité, et il aurait introduit d'autres divinités. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors là, on touche quand même le plus mystérieux, à mon avis, du procès. D'abord, il faut insister sur le fait que cet acte d'accusation, on le connaît. Et il y a quasiment, parce que ça pose plein de problèmes pour réfléchir d'un point de vue historique, c'est qu'on a aucun ou quasiment aucun autre procès pour lequel on dispose de l'acte d'accusation, c'est-à-dire l'acte légal qui a été validé par un magistrat et qui a permis la tenue du procès. C'est un Arlésien, un Favorinos d'Arles, qui au IIe siècle de notre ère est allé à Athènes et a recopié cet acte d'accusation. C'est pour ça qu'on l'a.
Mm-hmm.
Et il est très mystérieux parce qu'il met en avant des motifs essentiellement religieux, mais on est dans le cadre d'un procès pour impiété, une graphée à Zébéias. Et on a évoqué la corruption de la jeunesse, mais il y a effectivement ces deux éléments. Ne pas reconnaître les dieux de la cité et introduire de nouvelles divinités. C'est très mystérieux pour nous parce que, tout simplement, on ne comprend pas très très bien en quoi, pour les Athéniens, ces deux éléments posent problème. C'est-à-dire qu'introduire de nouvelles divinités dans la cité, les Athéniens ne cessent de le faire. Ils l'ont fait dans la deuxième moitié du 5e siècle. Le polythéisme est
décontracté sur ce sujet.
Tolérant. Enfin, il n'y a pas d'orthodoxie même. La cité ne surveille pas le discours qu'on tient sur les dieux. On sait que l'athéisme, par exemple, existe pleinement dans l'Athènes de la deuxième moitié du 5e siècle. Même parfois, on a présenté Critias comme un athée. Quelqu'un qui ne croyait pas en l'existence même des dieux, mais c'est même pas sûr qu'on puisse penser aux dieux ou réfléchir sur les dieux à partir de la question de leur existence dans le polythéisme. Mais bref, on ne voit pas même à Athènes, dans la deuxième moitié du 5e siècle, d'autres individus qui sont condamnés parce qu'ils auraient tenu des propos spécifiques sur les dieux, parce qu'ils les reconnaîtraient ou ne les reconnaîtraient pas.
Blasphémer, comme on dirait.
Non, il n'y a aucun délit de blasphème. Il n'y a aucun délit de blasphème. Ça, c'est vraiment reconstructions hyper tardives qui projettent des catégories qui sont celles de l'histoire du monothéisme, et en particulier du monothéisme chrétien, qui projette par exemple l'existence d'un tribunal d'inquisition sur ce qu'a été l'Athènes de l'époque classique. C'est impensable dans le contexte polythéiste, ça n'existe pas. Donc on a du mal à comprendre ces catégories, l'acte d'accusation. D'où, une lecture dominante dans notre compréhension du procès de Socrate, qui consiste à dire que le véritable motif est d'ordre politique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a voulu faire payer à Socrate, c'est sa proximité avec les oligarques de 404.
Et peut-être 403. Un antidémocratisme clair et net dans sa position, en tout cas,
le fait qu'aussi, éventuellement, la philosophie politique socratique est hostile à la démocratie. Mais, et là, il faut revenir à 403, parce que c'est un moment capital, c'est quand la démocratie est rétablie en 403, les Athéniens prononcent ce qu'on présente parfois comme la première loi d'amnistie de l'histoire. C'est-à-dire une loi qui interdit à tous les Athéniens de poursuivre un autre Athénien pour les actes commis durant la guerre civile. Ce qui fait que des oligarques s'étaient comportés de façon... pas les 30, mais parmi leurs soutiens.
Oui.
Parce que les 30, on peut toujours les poursuivre. Mais parmi les soutiens des 30, certains s'étaient comportés de façon sanguinaire durant la guerre civile. On ne pouvait pas les poursuivre après 403.
Donc c'est très étrange.
Il y a un devoir d'oubli. Et cette loi, on en fait... Voilà, c'est une grande loi d'amnistie, mais d'amnésie aussi. Un devoir d'amnésie, finalement, imposé aux Athéniens. Donc, l'idée qu'ont développé les historiens, enfin, un certain nombre d'historiens, c'est de penser qu'on utilise ces motifs d'ordre religieux pour, en fait...
Un
règlement de compte d'ordre politique. Parce qu'en fait, ce qu'on vise, c'est Socrate, l'oligarque.
C'est un masque, en fait.
C'est un masque.
Et alors, il y a cette histoire de Daimon, quand même, que vous allez nous expliquer, Arnaud Massé, puisque cette histoire de Pythie aussi. Qu'est-ce que Platon raconte là-dessus? Il y a une dimension religieuse dans la façon dont Socrate parle de ses talents philosophiques?
Alors, il y a une dimension religieuse. C'est pour ça que l'accusation est d'autant plus délirante sur l'impiété socratique. D'ailleurs, Xénophon aussi le dit. Alors, il y a d'abord le fait que Socrate ne manque aucun rite. D'ailleurs, quand il est sa dernière nuit, il se souvient qu'il doit un coq à Asclépios. Il demande à ses amis d'aller rendre ce rite. Et puis, c'est quoi son fameux démon? C'était la traduction qui est dans le premier extrait que vous avez passé dans Rossellini. Il faut peut-être pas traduire Daimon pour démon qui, à travers nous, des couches de culture...
Oui, bien sûr, il y a encore toute la culture...
Nous le diabolise. Le Daimon, c'est une divinité. C'est une divinité qui est peut-être de rang intermédiaire ou inférieur. Une divinité de telle sorte qu'on pourrait accompagner chacun par un Daimon, avoir un Daimon à soi. D'ailleurs, dans le très beau livre de Frédéric Ildefonse, paru l'année dernière, elle a fait toute une archéologie de l'invention de la subjectivité, en disant que les Grecs, s'ils ont pensé le soi, ils l'ont d'abord pensé comme un autre, et que ce qu'on trouve en soi, si on cherche au fond de soi, c'est un petit dieu. Et ce petit dieu, nous devons lui rendre grâce sous la forme de l'hospitalité. Et c'est de ça peut-être que parle le démon de Socrate. C'est d'écouter cette voix, ne pas la recouvrir, être hospitalier pour ce dieu qui nous retient de commettre, en l'occurrence, toute action injuste. C'est ça que dit le dieu de Socrate.
Et tout ça n'était pas... à soi seul un problème pour la culture polythéiste.
Absolument pas. Alors il y a quand même un passage. Il y a un texte qui est quand même très intéressant, c'est le Typhon de Platon, où il y a quand même une critique assez élaborée de la part de Socrate à l'égard des rites traditionnels de la cité. En particulier l'idée que le sacrifice, les offrandes, tout ce qui plaît aux dieux...
Et au peuple, non ?
Non, mais odieux.
Dans l'idée qu'on s'en fait.
C'est toute la réflexion que développe Socrate sur quel type de relation on noue avec la divinité à travers ses rites. Est-ce que c'est une relation, c'est la question que pose Socrate à Euthyphron, est-ce que c'est une relation qu'il faut penser comme un troc, comme un échange qui pourrait potentiellement être de type marchand? Mais alors, si c'est un échange, ça veut dire que les dieux attendent quelque chose de nous, qui n'ont pas la complétude nécessaire à leur autonomie. Bon, voilà, là y a, ce texte est quand même étonnant.
Mais là, il critique le dévoiement des rites, comme il le fera dans le livre 10 des lois, Platon. Si on croit que par les rites, on peut corrompre les dieux et donc commettre l'injustice en se rachetant après, alors non. De même qu'on n'acceptera pas qu'on représente, comme le fait Homère, les dieux dans des actions injustes. Donc oui, il y a une certaine forme de critique, mais...
Mais qui n'explique certainement pas cet énorme procès et son retentissement. Là, je crois que vous êtes tous les deux d'accord. Nous parlons de Socrate, de son procès en 399 avant Jésus-Christ, au sein d'une série sur les procès de penseurs et d'écrivains. Qu'est-ce qui se joue dans ces procès? Je suis en compagnie d'Arnaud Massé et de Paulin Ismar. Nous allons aborder la question controversée ou suscitant beaucoup de fantasmes, la question de la défense de Socrate. S'est-il beaucoup défendu, peu défendu? Il y a beaucoup de reconstructions a posteriori. Écoutez cette fiction qui a été écrite pour France 3 National en 1958.
Ce que je vous demande, Athéniens, c'est de ne pas vous scandaliser si vous m'entendez m'exprimer pour plaider ma cause comme je m'exprime, soit sur la place publique auprès des comptoirs, des marchands, où beaucoup d'entre vous m'ont souvent entendu, soit n'importe où. C'est la première fois aujourd'hui que je comparais devant un tribunal, et j'ai 70 ans. Je suis donc tout à fait étranger au langage que l'on pratique ici. Il vous faut seulement prendre en considération, et cela très scrupuleusement, si mes allégations sont justes ou non. Tel est en effet le mérite propre du juge comme celui de l'orateur, dire la vérité. Il en sera comme il plaira à la divinité. Mon devoir en tout cas est d'obéir à la loi et de plaider ma cause. Examinons, en remontant aux sources, de quelle accusation au juste est issue cette calomnie dont Mélétos s'est autorisé pour m'intenter ce procès. Que disaient exactement mes calomniateurs? Socrate est coupable. Avec une curiosité indiscrète, il cherche à savoir ce qui se passe sous la terre et dans le ciel. Il fait prévaloir la mauvaise cause et enseigne à d'autres à faire comme lui. C'est cela ou quelque chose d'approchant. Je prends à témoin la plupart d'entre vous. Je vous supplie de vous renseigner mutuellement et j'invite à parler ceux d'entre vous, et ils sont nombreux, qui m'ont entendu discourir. Un seul d'entre vous m'a-t-il entendu parler sur les sujets dont on m'accuse? Tout ce qu'on raconte sur mon compte est de même valeur.
Il parle, ce Socrate, et comment? Beaucoup. Et puis, il y a beaucoup d'autres approches qui soulignent à quel point il parlait peu, au contraire. Écoutez Gaston Bachelard qui réfléchit à ce qu'on dit de Socrate, son pseudo-silence, voire son petit côté « je ne me défends surtout pas ». Gaston Bachelard, philosophe, en 1954.
Dans le drame de la mort, il faut aller au fond d'une âme pour ne pas être victime des interprétations. Les interprétations se multiplient déjà à l'égard du procès qui a précédé la condamnation. Elles s'accordent, ces interprétations, tout de même, pour dire que Socrate, ce grand habile, s'est mal défendu, qu'il a heurté volontairement l'opinion populaire, l'opinion de ses juges. Il aurait pu, arguant, éviter la condamnation capitale. Il aurait pu être condamné à l'exil. Certains interprètes n'hésitent pas à prononcer le mot suicide, comme si, au seuil de la vieillesse, avant les malheurs de la vieillesse, Socrate avait voulu mourir et qu'il eût accepté la mort qu'on lui offrait. Il avait 70 ans.
On adore, nous, écouter Gaston Bachelard dans cette émission. Paulin Ismar, que sait-on de la défense de Socrate? A-t-il parlé? A-t-il eu des avocats? A-t-il renoncé à toute défense? Mettez-nous les choses au clair, s'il vous plaît.
Bah, déjà, il faut revenir sur le contexte de ce qu'est un procès à Athènes. Un procès à Athènes, c'est... Il n'y a pas de ministère public au sens strict. Il y a juste deux parties qui s'affrontent. D'abord, l'accusateur ou les accusateurs qui parlent, et puis l'accusé qui répond. Tout ça devant des juges qui sont une fraction de la communauté politique
tirée au sort.
Et il n'y a pas de juge professionnel, de même qu'il n'y a pas d'avocat professionnel. C'est-à-dire que la justice fait partie des compétences qui sont entre les mains de tous les citoyens, sans qu'il y ait aucune dimension d'expertise ou de
d'enquête sur les chefs d'accusation, par exemple.
Ah bah, sur les chefs d'accusation, il y a un magistrat, il y a l'Archon 3 qui a recueilli la parole de Mélétos, l'accusateur, et qui a abouti à l'acte d'accusation dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, considérant, c'est une phase du procès athénien qu'on appelle l'anacrisis, considérant que cet acte d'accusation était suffisamment fondé en droit pour que le procès ait lieu. Donc, c'est pas insignifiant. Alors, ce qu'on sait ensuite sur le procès lui-même, c'est que Mélétos est l'accusateur, mais qu'à ses côtés, deux individus ont joué le rôle de synégore. Et c'est là qu'interviennent Anitos et Lycon qu'on a D'accord. rencontrés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il
synégore,
il a...
ça veut dire quoi, synégore?
C'est des gens qui viennent. Non, c'est pas des avocats, parce que c'est pas des individus qui vous représentent ou qui portent votre parole. Mm-hmm. C'est des individus qui sont là pour vous soutenir et auxquels vous laissez un peu de votre temps de parole.
Et lui, il a des synégores, Socrate.
Alors, selon Xénophon, oui. Selon Xénophon, Platon ne les mentionne jamais. Donc dans l'apologie de Socrate, si vous ne voulez surtout pas prendre l'apologie de Socrate de Platon comme le procès verbal de ce qu'a été la parole de Socrate lors du procès. Mais Xénophon nous dit bien que Socrate est venu avec des synégores, mais il ne nous donne pas leur identité. En revanche, ce qu'on trouve aussi bien chez Xénophon que chez Platon, c'est l'idée selon laquelle Socrate n'a pas fait intervenir de témoins. Alors qu'au contraire, ses accusateurs auraient fait intervenir des témoins.
Donc il parle seul, lui ?
Il parle seul.
Il parle un peu, beaucoup.
Socrate ?
Oui.
Bien sûr, il parle, il se défend lui-même, mais comme de toute façon n'importe quel citoyen, sauf qu'il refuse d'avoir fait appel, et il s'en défend précisément, il refuse d'avoir fait appel à des textes que d'autres auraient écrits pour lui. Parce que ça, c'était possible à Athènes. C'est-à-dire que vous défendiez votre cause, mais vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on appelle des logographes, c'est-à-dire des individus qui, contre rémunération, vous aidaient à écrire votre discours. Il y a toute une tradition qui explique que Lysias, le grand logographe, le grand écrivain de discours athénien, enfin, métèque résident à Athènes, avait rédigé une apologie pour Socrate, enfin, en tout cas, avait aidé Socrate à constituer sa défense, et puis que Socrate aurait refusé ce texte parce qu'il tient à se défendre lui-même. Bon, tous ces éléments-là montrent bien qu'il a un comportement lors du procès qui est inhabituel. C'est-à-dire qu'il lui-même inquiète ou subvertit le fonctionnement traditionnel du procès athénien. Moi, j'ai parlé de stratégie de rupture. Il y a quelque chose qui, de toute façon, trouble les juges ou trouble le cadre ordinaire du procès. Mais il y a quelque chose d'essentiel que Bachelard évoquait ici, c'est que dans le cadre du procès athénien, il faut bien avoir en tête qu'il y a dans un procès comme celui-là qui est un procès pour impiété, il y a deux étapes dans le procès.
Ah, alors expliquez-nous ça.
Il y a une première étape au cours de laquelle les juges ont dû statuer sur la culpabilité ou pas de Socrate. C'est-à-dire savoir si le motif de l'azébéia correspondait à Socrate. Deux sources nous indiquent que les Athéniens, dans un premier temps, ont voté à une faible majorité en faveur de l'impiété.
280 contre 500, 501,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, ouais. 280 contre 220.
Et là
s'ouvre la deuxième phase du procès. Il faut toujours avoir en tête, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre le comportement de Socrate. Lors de cette deuxième phase, l'accusateur reprend la parole, et cette fois-ci, défend une certaine peine qui doit être infligée à l'accusé désormais reconnu coupable.
Oui.
Et l'accusé doit proposer une contre-peine. Mélétos, à ce moment-là, propose la mort, et Socrate, là, dans un acte d'une subversion extraordinaire, d'abord demande, si on suit Platon, d'abord demande à être nourri aux prytanées, ce qui est un honneur que la cité accorde à des bienfaiteurs, à des grands généraux qui ont remporté des batailles importantes pour la cité. Et puis, nous dit Platon, c'est un peu bizarre, il aurait rétrocédé dans un deuxième temps, il aurait proposé une amende, donc reconnaissant cette fois-ci c'est une culpabilité,
peine,
mais une amende d'un montant assez dérisoire. Bon. Xénophon lui dit autre chose. Il dit que Socrate n'aurait pas proposé de contre-peine. Donc là, Platon et Xénophon divergent très sensiblement. Mais dans les deux cas...
Oui, c'est bizarre dans les deux cas.
Son comportement et toutes les sources indiquent, et même je veux dire, la littérature socratique, indique que si Socrate avait proposé l'exil... Ce qui était quand même la peine,
c'est
en fait.
C'est ça qu'on appelle l'ostracisme? C'est la même
non,
chose?
Non, l'ostracisme, c'est une procédure différente.
Hein.
Mais s'il avait proposé l'exil, les Athéniens auraient voté l'exil. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et Socrate aurait quitté Athènes. Je veux dire, dans le Criton de Platon, c'est ce qu'il dit. Je veux dire, les disciples de Socrate le reconnaissent lui-même. Donc c'est lui qui a bien voulu faire de sa vie propre l'enjeu du procès.
Arnaud Massé, votre réaction, vous qui avez lu Platon, Xénophon, tout le monde, c'est précisément le côté bizarre du comportement de Socrate, probablement attesté historiquement, qui a nourri tant de prose philosophique à son sujet. Il résiste peu, il n'a pas peur de mourir, ça c'est quand même central pour un philosophe.
Et je pense que la conclusion de Paulin Ismar s'accorde avec... ce que Platon dit en dernière instance. Alors oui, alors il faut savoir que le genre du dialogue socratique n'est pas tenu à une... que pratique Platon et tout un tas d'autres jeunes gens qui ont suivi Socrate, n'est pas tenu à s'attacher aux faits d'une manière absolument précise. Et parfois, on est même là pour imaginer de nouvelles circonstances où on va pouvoir montrer comment l'homme aurait été exemplaire. Donc ça peut être... On peut se dégager un petit peu des faits aussi pour atteindre une vérité supérieure. Mais finalement, on se rejoint à cet endroit-là. C'est que ce que Platon nous montre de Socrate, c'est qu'en effet, il va jusqu'au bout faire la même leçon de vie et de philosophie qu'il a fait toute sa vie. C'est très cohérent. La seule bataille qui compte, c'est celle du soin de l'âme. Et donc, il faut, puisque une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, et il n'y a pas de plus grand mal que de mourir avec en soi une erreur, et de plus grand bien qu'en être délivré. Donc, ça passe avant toute chose, il faut s'examiner, et Socrate va appeler les Athéniens à s'examiner eux-mêmes, et leur dire en dernière instance, qu'en le condamnant, ils font eux-mêmes, ils accomplissent une action injuste, qui pèsera sur leurs âmes,
sur eux.
Et c'est leur sort à eux, qui est moins...
Alors on écoute ce texte important de Platon, hein, c'est vraiment la lecture de Platon dans l'Apologie de Socrate. C'est la cité qui se fait du tort à elle-même, dit Socrate dans sa condamnation. Condamnation d'un homme qui se présente comme le temps, c'est-à-dire un insecte qui pique le temps à l'égard de la cité. Piqûre salutaire, il faudra qu'après lui, il y ait d'autres temps. Cela est clairement suggéré, on écoute.
Sachez-le bien. Si vous me condamnez à mort, ce n'est pas à moi, si je suis bien l'homme que je dis être, que vous ferez le plus de tort, mais à vous-même. Ni Mélétos ni Anitos ne sauraient me faire de tort à moi. Comment le pourrait-il d'ailleurs, puisqu'il n'est pas permis, j'imagine, que celui qui vaut le mieux éprouve un dommage de la part de celui qui vaut moins ? Oh, sans doute est-il possible à un accusateur de me faire condamner à mort, à l'exil, ou à la privation de mes droits civiques. Sans doute cet accusateur, ou un autre, s'imagine-t-il, je suppose, que ce sont là de terribles épreuves. Mais je ne partage pas cet avis. Je considère au contraire qu'il est plus grave de faire ce qu'il fait maintenant, quand il tente d'obtenir injustement la condamnation à mort d'un homme. À présent, Athénien, ce n'est pas comme on pourrait se l'imaginer ma défense à moi que je présente tant s'en faut, mais c'est la vôtre. Je crains que, si vous me condamnez, vous ne commettiez une faute grave en vous en prenant au cadeau que le Dieu vous a fait. Si en effet vous me condamnez à mort par votre vote, vous ne trouverez pas facilement un autre homme comme moi. Un homme, somme toute, et je le dis au risque de paraître ridicule, attaché à la cité par le Dieu, comme un taon au flanc d'un cheval de grande taille et de bonne race, mais un peu mou en raison même de sa taille, et qui aurait besoin d'être réveillé par l'insecte. C'est justement en m'assignant pareille tâche, me semble-t-il, que le Dieu m'a attaché à votre cité. Moi qui suis cet homme qui ne cesse de vous réveiller, de vous persuader et de vous faire honte, en m'adressant à chacun de vous en particulier, en m'asseyant près de lui n'importe où, du matin au soir.
Ça, c'est le sens profond de ce procès selon Platon. Je vous écoute pour un commentaire, c'est une très belle page de philosophie dans l'histoire, inoubliable. Le philosophe doit être un insecte qui pique la cité. C'est peut-être différent de ce qui s'est passé historiquement, mais c'est une leçon philosophique majeure. Arnaud Massé.
Oui, si vous partez, on pourrait partir de la dernière phrase qui vient d'être lue, en insistant sur cet homme qui ne cesse de vous réveiller, cette activité incessante. Et en insistant aussi sur le « en m'adressant à chacun de vous en particulier ». Dans les lignes qui suivent, il va dire « il ne faut pas que ça vous semble incroyable, que je me refuse toujours à venir vous parler à la tribune quand vous êtes assemblés collectivement, mais que je me démène auprès de chacun de vous ». Et dans ce démener, il y a un mot, il se dit « polypragmon ». La polypragmosune, c'est un concept très important. C'est le fait de se mêler de tout. Et on l'utilisait pour accuser des gens qui utilisaient trop les institutions démocratiques, pour ne cesser de vouloir faire voter ceci, cela, pour accuser les gens dans les tribunaux. Donc, et même les gens qui le font se défendent de le faire. Non, non, moi je suis un homme tranquille, je ne suis pas tout le temps là à faire l'activiste. Donc c'est très étonnant que dans sa défense, Socrate dise, au moment même où il refuse d'aller dans les institutions démocratiques, qu'il est hyperactif, qui est le mot qu'on a collé à ceux qui y allaient trop. Mais c'est pour déplacer la scène. Je suis hyperactif, donc je suis très politique, mais sur une autre scène, auprès de chacun de vous en particulier, en m'asseyant près de lui n'importe où, du matin au soir. Il veut donc dire, et là il y a une critique de la démocratie, mais attention, pas la démocratie que nous connaissons, mais leur démocratie, pleine de participation collective. Il est en train de leur dire, il n'y a rien à vous chercher quand vous êtes tous ensemble. La preuve, vous allez faire une bêtise. Mais moi, je n'aurais cessé de vous prendre un par un, une âme après l'autre. Pourquoi ? Parce que la seule politique qui compte, c'est d'amener chaque âme à s'examiner. Et si la démocratie ne le permet pas, ben on fera autre chose.
Vous croyez, Paulin Ismar, l'historien qui allait avoir le dernier mot ici, que la cité a entendu tout cela ? Ou que la lecture de Platon, qui a quoi, plus de 20 ans de moins que Socrate, qui est dans le paysage, qu'il a vu, même 40 ans, plutôt, 40 ans, elle est décalée, elle n'apporte rien à l'histoire, elle est une légende magnifique, mais une légende.
Non, je pense que c'est pas tout à fait une légende. Et puis, si cet événement continue à nous fasciner, à nous faire réfléchir et à nous faire réfléchir sur ce qu'est la démocratie athénienne, c'est parce qu'il y a l'œuvre de Platon. Platon, ouais. Après, cet extrait, il est évident que, je ne sais pas si Arnaud sera d'accord, mais il y a toute une tradition de lecture aussi d'une partie des textes de Platon qui insiste sur le caractère apologétique de cette œuvre. C'est-à-dire, où un des enjeux, c'est vraiment de défendre la mémoire de Socrate dans le contexte de ce qu'est Athènes au milieu du IVe siècle. Et on sait bien que cette mémoire socratique, elle est discutée, elle est disputée, et qu'en fait, juste après le procès, il n'est pas très bon d'avoir été le disciple de Socrate à Athènes. Platon part avec d'autres à Mégare, puis il va partir ensuite en Sicile. Mais que toute l'histoire du IVe siècle est précisément celle de la réhabilitation progressive de la figure de Socrate. Et dans les années 330, donc 70 ans après le procès, c'est quand même très très frappant, il y a cette statue de Lysippe, un grand sculpteur grec qui fait une statue de bronze de Socrate placée dans le Pompéion, c'est-à-dire dans un endroit stratégique à Athènes où passent les éphèbes, où passent les jeunes athéniens. Donc 70 ans, donc ça devient un modèle, quasiment un modèle du bon citoyen qu'on offre au modèle aux jeunes gens. Donc c'est voilà, de toute façon la mémoire socratique, elle a triomphé en 330.
La ciguë de Socrate, le datura d'Hamlet, la spic de Cléopâtre, l'eau d'un homme de Juliette, le poison des esthètes, l'opium de Baudelaire, le pavot des poètes, au milieu des éthers, sans rien à côté. Et d'années, mon amour inquiétant. l'aqua tofana, imposant à qui bouge la raideur du trépas. La cantaride chère.
Les grands poisons sont inquiétants, la ciguë de Socrate sans doute aussi dans l'histoire de la pensée et de la démocratie. C'était Juliette, Poison, une chanson de 1993. Merci beaucoup Arnaud Massé et Paulin Ismart. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine s'intéresse à la notion de catastrophe. Voici le pourquoi du comment.
Comment une catastrophe est-elle possible ? La question « comment une catastrophe est-elle possible ?» n'est pas une question philosophique classique sur le modèle de celle que la philosophie de Kant a rendue populaire. Comment la connaissance pure est-elle possible ? Comment l'impératif catégorique ? Comment la morale est-elle possible ? Et on en cherche les conditions de possibilité. En réalité, peut-être la question « comment une catastrophe est-elle possible » vient-elle paradoxalement non pas avant les catastrophes, en tout cas pas seulement avant les catastrophes, pour essayer de les éviter. On se demande comment une catastrophe est possible et donc on essaye d'en éviter. Mais en réalité, lorsque nous nous demandons comment une catastrophe est possible, c'est souvent, malheureusement, quand elle vient d'avoir lieu. La question « comment est-ce possible ? Comment une chose pareille est-elle possible ?» et même l'exclamation négative, l'exclamation traumatique par excellence, « ce n'est pas possible, c'est impossible, cela n'est pas possible, cela n'aurait pas pu et cela n'aurait pas dû arriver », c'est peut-être une expression qui survient quand la catastrophe a déjà eu lieu. Il y a même certains psychanalystes, et le plus profond d'entre tous, Donald Winnicott, qui soutient que notre rapport à la catastrophe est toujours référé à une crainte d'un événement, d'un effondrement, dit-il, qui a toujours déjà eu lieu ou dont la peur a toujours déjà été en nous dès la naissance, dans ce fameux moment de détresse du nourrisson qui craint pour sa vie, pour son existence même, cette peur de la catastrophe ayant finalement déjà précédé notre vie elle-même. Et dans le retour de la catastrophe, nous retrouvons cette sidération, car la question est celle de la sidération. Comment une catastrophe est-elle possible ? Mais il faut quand même résister à la sidération et se demander ce qu'on entend par catastrophe. Pourquoi est-ce que c'est la catastrophe qui suscite en nous cette question précédée par une exclamation ? Comment est-ce possible ? Point d'exclamation, avant même de devenir un point d'interrogation. Or, il est normal que la catastrophe suscite cette sidération, puisqu'on doit entendre par catastrophe la destruction totale d'une chose précise, d'une chose singulière, d'une chose individuelle. La catastrophe est donc, dans le cas où elle frappe un sujet, quelque chose qui le sidère forcément, puisqu'elle est la destruction non pas d'une partie de lui-même et qui laisserait en place lui-même et les outils qu'il a mis en place pour sa propre préservation, mais elle est par définition la destruction totale de sa propre subjectivité ou en tout cas, et de sa vie elle-même ou du monde dans lequel il était, en tout cas la destruction totale d'une chose précise qui la rend irréversiblement impossible, en effet, qui la rend irréversiblement détruite. La question de la catastrophe, c'est celle du retournement complet. Il y a à ce moment-là, évidemment, des distinctions à faire, car pour une chose, la destruction totale, c'est toujours différent. Il m'arrive de dire que pour une chemise blanche, la catastrophe, c'est une petite tache noire. Ça n'est pas une catastrophe pour l'humanité, mais c'est une catastrophe pour la chemise blanche et pour celui qui voulait une chemise immaculée pour telle ou telle occasion. Il s'est fait une tache de sauce tomate. C'est une catastrophe, mais de la sauce tomate sur la chemise blanche à la destruction possible de la planète ou de l'humanité, en passant par les diverses catastrophes possibles, il faut pouvoir s'orienter dans les catastrophes, il faut pouvoir passer de l'exclamation sidérée à la réflexion théorique et à l'action pratique. C'est cela, s'orienter dans les catastrophes.
Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaï Magiboire, Philippine de Bellois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.
On commence la semaine avec un débat critique consacré au théâtre. Joël Pomera s'inspire de l'œuvre de Pagnol pour son spectacle Marius et Éric Charron adapte Zola pour sa pièce Les Chroniques.
Marie Labori.
Et puis je reçois le chorégraphe Olivier Dubois pour son spectacle For Gods Only, sa troisième version du Sacre du Printemps avec la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot.
Les midis de culture. Aujourd'hui à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Nouvelle série, toute cette semaine, le Book Club explore des livres qui questionnent l'écriture des lieux.
Marie Richeux.
Thomas Clair ouvre cette série pour nous raconter sa dernière aventure narrative dans le 18e arrondissement parisien. Un narrateur anonyme déambule et note ce qu'il voit. Anecdotes quotidiennes, aménagements urbains, descriptions historiques. Thomas Clair est notre invité.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Demain, ce sera la suite de cette série consacrée au procès de penseurs et d'écrivains, à ce qui est en jeu.